Salut, bienvenue sur Radio Shad. On est le jeudi 14 mars 2024. Et oui, il y a eu une petite absence de musique aujourd'hui, et aussi un petit peu une annonce un peu tard parce que j'ai failli me rendormir aujourd'hui. Putain, je suis vraiment un cas, mais je suis là. Ça va, j'espère que vous allez bien. Ce soir, c'est une émission spéciale matière première. Donc d'habitude on fait de la géopolitique, géoéconomie. Bah, on va faire ça, mais accès métier, accès formation, et pour ça, pour ce faire, on va passer un petit peu de temps avec Vincent. Et alors attendez, hop, j'accepte vos invitations, vos propositions. Je suis légèrement fatigué en ce moment. Et ouais, donc c'est ça, on va inviter Vincent, enfin Vincent va arriver bientôt, et on va faire une émission FAQ, genre en fait, voilà, pour savoir si vous avez des questions, pour savoir bah, c'est quoi le métier de trader de commodities, et puis d'autres questions en fait, je sais pas, si vous avez des questions sur le sujet. Ça va, Quarl?
Salut, salut, ça fait plaisir d'avoir une émission qui est sponsorisée par Danopilo.
Ouais. Mais le pire, c'est que je suis bien confortablement installé sur mon lit, tout ça. Je me suis fait un petit espace tranquille. J'ai un peu de mal en ce moment. Je suis vraiment fatigué tout. En même temps, je me lève très tôt. Donc du coup, j'ai eu un rythme tellement chaotique ces derniers temps que voilà quoi.
Et pourtant, je t'ai donné des conseils, hein.
Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
Voilà, c'est l'hygiène de vie, c'est important.
C'est quoi?
C'est une hygiène de vie, c'est important.
Ah oui, bah, je suis bien d'accord. Hein. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Mais j'ai pris des mesures. Tu as vu, j'ai fait un post là-dessus à la question comment vous récompensez-vous? Mais bon, c'est sûr que c'est pas la meilleure chose. Me suis beaucoup récompensé ces derniers temps.
Monsieur se récompense régulièrement.
Ça. Alors,
Bon, et donc ce
Vincent est
soir,
arrivé.
on traite des matières premières, c'est-à-dire.
Et ben en gros, ben Vincent est un spécialiste dans le trading des commodities. Et on cherchait un sujet pour ce soir. Et après réflexion, on s'est dit ben pourquoi pas parler de ce que c'est finalement ce métier-là par le biais d'une FAQ. C'est-à-dire d'une foire aux questions. Donc voilà, on va attaquer ce thème. Mais avant de commencer, si peut-être que vous n'avez pas beaucoup de questions. Ce qui est pas mal aussi, parce qu'on voulait faire une émission courte ce soir. Donc c'est une émission relax, une émission spéciale. On prend notre temps, on se repose, c'est bien. Et puis c'est ça, on va parler. Bon, déjà, on va peut-être commencer par des définitions, des choses comme ça. Ça va, Vincent?
Ça va et toi, tu m'entends?
Ouais, je t'entends.
Parfait. Ça va super, écoute.
C'est vrai qu'il y a un petit bruit de fond.
Ouais, je vais sortir la présentation complètement.
Alors, avant qu'on commence le truc, je voudrais dire que j'espère que vous avez pris tous vos dispositions, parce que j'ai l'impression que c'est la fin du bull market. Je veux pas jeter le... Salut cryptomancien. Ah, il y a le bug de Twitter qui recommence. C'est-à-dire que je peux t'entendre, cryptomancien, mais je te vois toujours en listener. Donc, c'est possible qu'il y a des gens qui t'entendent pas. Est-ce que vous pouvez mettre un pouce en l'air si vous entendez cryptomancien? Ouais, peut-être. Bah, il y a tout qui. Bah, il y a quand même eu un. Il y a quand même une. Tu vois, il y a eu un petit. Un mini crash aujourd'hui, tu vois, genre d'un petit peu toutes les cryptos. Voilà, c'est juste ça. Et puis en même temps, j'ai l'impression que tu sais, c'est un peu pareil, ça, tout qui est descendu un peu, les stocks et tout. J'ai l'impression qu'on est dans une fin de règne un petit peu. Mais bon, on va voir. On va voir. Mais pourquoi, j'ai pas trop tout à fait compris qu'est-ce que venaient faire les fonds de pension dans l'histoire? Ah, ok. Mais comment tu sais ça? Ok. Est-ce que éventuellement, tu t'es pas dit que c'est possible que, est-ce que c'est possible que, tu sais, il y a une vague, bah, une espèce d'accumulation des achats parce que, voilà, et tout le monde s'est mis à acheter à peu près au même moment. Donc, les fonds de pension, tu vois, y compris les fonds de pension, un petit peu tout le monde, mais que là, on arrive peut-être à la fin de cette vague acheteuse. Et que va y avoir peut-être une correction ou un truc ou une fin de. Enfin, je sais pas. Peut-être que je dis n'importe quoi. Ça se trouve, ça va repartir et tout. Mais je sais pas. J'ai un feeling comme quoi on a atteint un genre de top, pas le top 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 de genre définitif pour tout le monde, mais un genre de top local un petit peu partout. Hein. J'ai l'impression qu'il y a eu un moment comme. Ok. Bon, bah, on verra bien. J'espère que ça va continuer à monter, mais je t'avouerai qu'un petit flush, c'est pas mal. C'est pas mal parce qu'en plus, c'est plus facile pour vendre les cryptos à des gens qui s'y mettent, tu vois. Genre pour leur demander. Si, franchement, ce serait pas mal si BTC tombait à 50 000 là maintenant, ce serait vraiment cool, tu vois, parce que c'est plus facile pour dire à ceux qui viennent te voir, alors il faut acheter du Bitcoin, de leur dire, bah, là, c'est maintenant, tu vois. Alors, tandis que là, quand c'est à 73 000, et que ça a fait genre plus 25 000 en une semaine, genre, c'est compliqué, hein. Et Vincent, au niveau des commodités, avant de te poser la question, c'est quoi une commodité?
La définition, on va dire, tu m'entends bien là?
Ouais.
Ouais, la définition, on va dire classique, une commodité, c'est une matière, une première littéralement, que tu peux extraire du sol, vraiment qui n'est pas transformée. En fait, c'est ce qu'on appelle les commodités primaires. Donc tu l'extrais, le pétrole, le gaz, ce que tu veux. Et après, tu peux les transformer en essence, en naphta, le cuivre concentré, etc. Donc, tu as les primaires, donc ce que tu extrais du sol, et après, tu as ce qui est secondaire, donc ce que tu transformes, en fait.
Ok.
Ça, c'est les deux
Et
grosses différences. Ouais.
est-ce qu'il y a une. Parce que nous, on parle par exemple des cryptos comme si c'était un tout. Et un peu à raison, parce que finalement, par exemple, quand. En gros, il y a tout qui bouge, plus ou moins, pas forcément, mais plus ou moins, il y a tout qui bouge ensemble. Donc quand Bitcoin monte, tout monte. Quand Bitcoin baisse, tout monte, tout baisse. Est-ce qu'il y a, il y a la même dynamique dans les commodités? Est-ce que on peut prendre les commodités dans leur ensemble quand on parle de marché, par exemple?
tu peux les prendre ensemble, par exemple entre énergie, agricole ou métaux, tu vois. Genre, effectivement, lorsque souvent tu as tous les métaux qui baissent, quand tu as un gros métal qui baisse comme le cuivre, tu as l'ensemble des métaux qui baissent. Et pareillement pour le pétrole, lorsqu'il baisse, souvent tu as l'ensemble des énergies qui baissent. Et tu peux prendre le même raisonnement chez les métaux agricoles.
Ok. Est-ce que toi, est-ce qu'il y a eu un rallye comme on a eu sur Bitcoin récemment?
Va du cours du cacao, tu verras, ouais. Ils étaient à 2 000 $ la tonne en 2022. Actuellement, ils sont à 7 500 $ la tonne.
Ah ouais, faut que je regarde le cacao, tiens.
Et par exemple,
c'est vrai que tu l'avais déjà parlé.
Tu peux prendre le gaz naturel américain et européen dans le sens inverse, où les deux, depuis 2022, ils ont perdu plus de 80% de leur valeur.
Ok. Je ne sais même pas comment on regarde le prix du cacao. J'ai tapé cacao charts.
tu tapes cacao future prices, tu vas sur Trading Economics, qui te donne les prix du cacao au LME et t'es dessus.
Ok. Ouais, il y a quand même un petit peu de bruit derrière toi en mode.
Ouais, j'attendais vite de sortir. Ouais.
C'est en fait Radio Shad, c'est la régression un peu. La qualité de nos micros, elle se dégrade au fil du temps. Non, mais c'est cool. Aucun problème, t'inquiète. Attends, il y a des commentaires. Ok, il y a. Ok, d'accord, ça c'est problématique. Il y a Crypto Matador et Holder de Grey qui dit je n'entends pas. Crypto Matador dit je n'entends pas les intervenants et Holder de Grey dit moi non plus. Je savais qu'il y avait une couille. Ouais, je sais pas. Comme je t'ai dit, on a eu ce problème-là, genre avant-hier, en fait. Il y avait des gens qui n'entendaient pas l'invité, etc. Et je sais pas quoi faire. Ouais. Est-ce que, Vincent. Est-ce que tu peux éventuellement genre quitter et revenir? Peut-être que ça va résoudre le truc. J'en sais rien. Mais bon, voilà, on va tester ça. Et pendant ce temps-là, j'essaie de regarder les futures du cacao. Ouais, j'ai une nouvelle passion. C'est mon nouveau truc, ça. Vincent, il va pouvoir dire ça, j'y connais rien du tout. Là, je suis en train de regarder, je vois mai 2024, on n'est pas encore en mai, donc je comprends pas comment il peut y avoir des prix pour mai.
Parce que sur les matières premières, en fait, c'est des contrats, c'est fou, des contrats futurs, en fait. Donc, en fait, quand tu rates des contrats, c'est par échéance. Tu as des contrats pour mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, etc., jusqu'à 2024. Et par exemple, pour 2025, 2026, etc. T'as une drip, en fait, comme les taux de la dette américaine, tu as aussi une courbe des prix en fait, des futurs à terme sur les matières premières.
Ah, alors peut-être qu'il t'entend pas. Vincent, est-ce que t'entends Cryptomancien?
Pas du tout.
Ah ouais. Ouais, en fait, personne t'entend Cryptomancien. C'est ça l'histoire. Il y a parce qu'il y a Holder de Grey qui dit que c'est toi qui l'entends pas. Mais là, apparemment, il n'y a personne qui t'entend. Il n'y a que moi qui t'entends, en fait. C'est comme si tu étais Un genre de fantôme que je suis. Comme si j'avais un super pouvoir, en fait. Je peux. Ok. En fait, ça se trouve, depuis le départ, crypto-monnaie n'existe pas. Il n'y a que moi qui l'ai imaginé dans ma tête.
Depuis le début, on n'entend pas du tout, je t'avoue. En fait, tu parlais comme si tu parlais à un fantôme.
Alors, ben, je vais l'accepter. Ben, j'espère que ça a marché. Parce que je ne sais pas quoi faire sinon. Non, mais Twitter merde complètement. Ah. Ouais, alors j'ai toujours le même bug visuel. Donc, c'est-à-dire que je te vois en auditeur, mais je t'entends. Et je sais pas, est-ce que Vincent t'entend cryptomancien?
Je n'entends pas du tout. Vraiment,
Ah,
c'est
ok.
impossible. En fait, il n'y a personne qui l'entend.
Bon, bah, je crois que cryptomancien, t'es ban par Twitter. Et shadowban. Ouais. T'es tombé au combat. Je mettrai de temps en temps, quand on parlera de liberté, je mettrai ton logo sur la bannière. Bon, bah, en tout cas, bah, je vais voir. Mais alors, du coup, éventuellement, si jamais tu veux poser une question à Vincent, au pire, tu peux toujours me dire et puis je vais lui poser. Mais ouais. Ok, ouais. Alors Vincent, il y a Cryptomancien qui demande sur quelle plateforme on peut acheter bah, en fait des matières premières et par exemple en particulier le cacao.
Tu peux aller sur Interactive Brokers, donc IBKR en diminutif ou IG. C'est vraiment les plus gros, on va dire, à l'échelle européenne, qui sont les plus utilisés. IBKR, même au niveau institutionnel, c'est pas mal utilisé, mais IG, au niveau particulier, c'est le plus adéquat en termes d'offres des matières premières, en termes de prix de transaction, des produits dérivés que tu peux utiliser dessus.
Alors, Cryptomancien a posé une deuxième question. Et ça me fait rire parce qu'il y a Hold Order Grey qui délire cette émission. Il y a Cryptomancien qui vient de poser une deuxième question. Est-ce que ces plateformes, elles sont KYC?
Ouais, 100%.
Ouais. Ouais, c'est pas étonnant.
Mais moi, c'est ce que personnellement, j'utilise IG personnellement pour mon activité. Et bah, c'est là que moi, c'est la plus facile d'utilisation. Tu as accès à tout en termes de produits financiers et de sous-jacents. Ils ont leur propre plateforme en termes de graphique, etc. Enfin, c'est super. Pour le coup, moi, je recommanderais celle-là avec IBKR. Ce serait les deux meilleurs de mon point de vue.
Est-ce que d'ailleurs ça existe? Je ne sais pas si tu sais, Vincent, vu que tu n'es pas trop tant que ça dans les cryptos, mais est-ce que ça existe une plateforme qui peut où tu peux trader des cryptos contre des matières premières?
Alors, pas du tout. C'est ressource.
Ah, tant pis. Ça aurait été bien, ça. Il faudrait que ça existe, en fait.
Ça, c'est vraiment tellement des mondes opposés. Non, il n'y a vraiment aucun lien avec les deux. Alors, en tout cas, à l'heure actuelle. Après, qui sait, dans le futur.
Ouais. Bah, probablement, hein, si Bitcoin s'impose en tant que world currency, peut-être qu'à un moment donné, il va y avoir cette possibilité-là plus facilement que maintenant, quoi. Voilà. Juste à cause du KYC? Ouais. Alors par contre, ça doit être un peu bizarre parce que comme il n'y a que moi qui t'entends, ça doit être hyper bizarre comme émission pour tout le monde parce qu'il y a genre, il doit y avoir un gros vide pendant que moi je t'écoute. Mais en gros, cryptomancien vient de dire que bah c'est pas possible pour lui parce que si tu gagnes une grosse somme, bah tu l'as dans le cul parce que t'es obligé, c'est obligatoirement déclaré quoi. Ça passe par la banque, etc. Enfin voilà, c'est directement dans le circuit et tu sais que ça va être directement, en fait, ça va être taxé quoi qu'il arrive quoi. T'as pas le choix de le déclarer quoi. C'est pas genre quand tu trades des cryptos, tu les trades et puis à partir du moment où tu les convertis en dollars, à ce moment-là, tu peux les. Enfin, ça fait comme un taxable event. Mais non, là c'est direct. Et du coup, j'imagine que tu es obligé de noter toutes tes transactions. Comment ça se passe d'ailleurs?
C'est-à-dire les noter.
Bah, est-ce que tu dois déclarer toutes tes transactions et payer les taxes sur tes transactions? Ou alors tu déclares finalement que ce que tu gagnes au total à la fin de l'année, genre?
Oui, c'est ça, c'est la deuxième option en
Ok,
fait.
d'accord.
C'est qu'à la fin, voilà, ton gain total, enfin, c'est effectivement ça. Donc, finalement, c'est un peu l'ensemble de tes transactions, on va dire, winner, ce qu'il y a sur ton portefeuille en termes de fructification à la fin de l'année que tu déclares.
Ok. Alors, il y a CryptoMonsieur qui pose une question. C'est quoi la question déjà? Ah, il demande si tu es dans l'Union européenne ou pas.
Moi, ouais.
Alors, il dit que tu es sûrement dans une partie de l'Europe qui est une législation plus favorable. Alors, après, ouais, je sais pas. Alors, ah oui, ça c'est une bonne question. Donc une autre question de cryptomancien. Il veut savoir s'il y a des différences de législation de pays en pays. Est-ce qu'il y a des pays où c'est plus relax sur le trading de commodities ou alors est-ce que c'est un peu la même règle un petit peu partout en termes de. Ouais.
Ouais, j'avoue que là on attaque un terrain que je connais vraiment pas trop par contre.
Ouais.
Genre en point de vue particulier, je connais vraiment pas. En point instit, oui, je te dirais que par exemple les gros hubs dans l'Union européenne, enfin l'Union, oui, c'est plus dans l'Union européenne, mais du coup t'avais l'Angleterre à l'époque, mais qui est toujours le cas aujourd'hui. T'as la Suisse, t'as certains pays de l'Est, comme tout ce qui est enfin les pays baltes un peu, et t'as les pays du Nord, notamment la Norvège et le Danemark. Mais en particulier, je connais vraiment zéro sur ce terrain-là.
Alors, je sais que tu avais déjà raconté un petit peu dans le passé, Vincent, que tu avais eu un coup de cœur pour les commodities dans le passé. Tu trouvais que c'était vraiment un domaine qui t'intéressait de ouf. Mais je me souviens aussi que tu as dit que tu avais eu un moment de désillusion quand tu t'es rendu compte que genre 70% au moins du marché, c'était des bots qui trade. Et alors du coup, où t'en es par rapport à ça?
Si je suis toujours désespéré ou pas, c'est ça?
Ouais.
Oui, bah en fait, c'était pas vraiment un fait actuel, c'était plus un constat ou une réflexion que j'avais par rapport à ça. Et en faisant, je sais pas si tu avais vu, mais j'ai fait un voyage à Genève dernièrement, où j'ai pu discuter justement avec des boîtes de négoce, que ce soit des traders physiques ou des traders papier. Et en fait, ça dépend du marché, si tu veux. C'est par exemple sur le marché du pétrole, qui est extrêmement liquide. C'est-à-dire que bon, c'est la matière première de référence à l'échelle mondiale. Et si tu veux, tu as toutes les banques, les fonds de pension, les hedge funds, les fonds de négoce qui sont, tout le monde est dessus en fait. Du coup, ce qui est en fait aujourd'hui, c'est devenu un marché tellement liquide, avec l'ensemble des produits dérivés qui sont traités dessus, que aujourd'hui, effectivement, pour les gens qui font de la...
Tu coupes beaucoup quand même. Ouais, tu coupes un peu. Genre, j'ai rien compris. Personnellement, j'ai quasiment rien compris des 2-3 dernières minutes. Mais en tout cas, j'ai compris que tu étais en train de monter des escaliers. Donc ça, c'est bon. J'ai l'info. Mais pour le reste, ce que tu dis, je ne sais pas si les autres ont compris, mais c'était un peu compliqué. Là, alors là, du coup, j'entends rien du tout. Mais je pense que c'est parce que... Ah ouais, d'accord, il a déconnecté. Je pense que c'est parce qu'il vient de rentrer chez lui et qu'il est passé de Internet, du data au Wi-Fi. À tous les coups, c'est ça, tu sais. Alors, Vincent, hop. Ok, je le réapprouve. C'est chaotique comme émission un peu. Mais c'est pas grave, ça fait partie de l'esprit un peu.
Exactement ça.
Ouais, ça m'arrive tellement souvent.
Non, pour revenir, ce que je disais, c'est qu'en fait, effectivement, ça dépend des marchés. C'est-à-dire des marchés qui sont plus ou moins liquides. Et par exemple, je prends l'exemple du marché du pétrole, qui est en fait aujourd'hui un marché très liquide, dans le sens où c'est la matière première de référence et tous les acteurs financiers sont dessus, que ce soit des hedge funds, des sociétés de négoce, des majors, des banques, des fonds de pension, etc. Et aujourd'hui, du coup, pour les gens qui font effectivement de la spéculation sur ce marché-là, c'est devenu beaucoup plus dur qu'on va dire il y a 30 ans. Parce que tout le monde est dessus, tout le monde fait des futures et des options dessus. Donc, aujourd'hui, effectivement, pour chercher de la performance ou pour trouver son edge, tu as effectivement le monde quantitatif qui s'est un peu jeté sur cette matière première-là, parce que c'est ce qui est le plus traité d'un point de vue financier. Et donc, effectivement, aujourd'hui, tu as beaucoup d'acteurs sur le pétrole aujourd'hui d'un point de vue spéculation, qui sont des fonds quantitatifs, des hedge funds quantitatifs, ou des sociétés de négoce qui ont des desks papier dérivé avec des modèles. Pareillement pour les majors, quand je dis majors, c'est les Total, les BP, les Shell, etc. Et donc là, effectivement, on le voit en ce moment, depuis, je crois, ça fait 2 mois, le pétrole, que ce soit le WTI ou le Brent, il traite entre, genre pour le Brent, c'est entre 80 et 83 dollars le baril, et pour le WTI, c'est dernièrement entre 78 et 80 dollars le baril. Et même depuis, j'ai envie de dire maintenant un an, comme on dit, il traite sideways, c'est-à-dire qu'il vraiment, il traite depuis, disons, 6 mois, entre 6 et 7 dollars. Quand le WTI était 69 dollars, 78 dollars, le Brent c'était 62, 80 dollars, et ça faisait que se balader comme ça, un peu comme un yo-yo. Et en fait, là, c'est là que tu comprends très vite, et il y a certains comptes Twitter qui l'expliquent très bien, que c'est que des algos, en fait, qui sont en train de limite de se balancer la balle. Humainement, il n'y a pas un mec qui est en train d'acheter 72, 80, 72, 80, 72, 80. C'est vraiment des algos qui sont en train de se balancer la balle sur plein de... Enfin, qui eux-mêmes se basent sur des facteurs qui ne sont pas forcément que fondamentaux. Donc, quand je dis fondamental, c'est tout ce qui est offre, demande, stock, géopolitique, etc. Là, ça devient quasiment presque de la métadonnée où leur modèle à eux, c'est vraiment que les flux, en fait, que tu vois dans les carnets d'ordre, etc. Et c'est des positions qui se prennent très rapidement en intraday, etc. Et donc là, tu as un marché qui, pour un humain, il comprend littéralement rien qui se passe, parce que c'est quasiment plus de l'humain qui est sur ce marché-là. Mais à l'inverse, ouais. Tu as le gaz naturel, où du coup, effectivement, là, il y a beaucoup moins d'acteurs dessus, même s'il y a des acteurs spéculatifs, où en fait, quand tu regardes sur les 3-4 dernières années, comment les prix ont réagi en fonction des fondamentaux, ça a extrêmement bien réagi. Ce n'est pas tout le temps le cas, c'est-à-dire que les prix fondamentaux physiques ne reflètent pas forcément tout le temps les prix fondamentaux papier, donc ce qu'il y a sur les marchés financiers. Mais quand tu prends pas le gaz ou le caca, comme je t'ai cité, ça a très bien répondu, par exemple, au choc de la guerre en Ukraine, au choc du Covid, dernièrement au choc de la baisse de la demande en Europe et aux États-Unis. Lorsqu'il y a des vagues de froid ou des hivers doux comme on a eu dernièrement, ça s'est très, très bien reflété dans les prix de marché. Et du coup, c'était quelque chose qui était plus facilement tradable, entre guillemets.
Ouais, je vois.
Mais tu vois, ça dépend vraiment. Mais tu veux, aujourd'hui, même pour les matières agricoles, c'est les matières premières où les fondamentaux sont le mieux. Tu as très, très, très peu d'acteurs sur les matières agricoles, que ce soit vraiment tout type d'acteurs, des négos ou des majors ou des hedge funds, tu en as très, très peu. Et là, moi, j'ai pu discuter avec des traders physiques à Genève, traders papier, et eux-mêmes me disaient ce qu'ils faisaient dans leur taf, c'était vraiment purement, purement, purement de l'analyse fondamentale. Et derrière, ils prenaient leur position. Donc, agricole, ça marche très bien. Les métaux, ça marche très bien également, même s'il y a une augmentation des acteurs dernièrement due à ces enjeux de transition énergétique, hausse de la demande, risque de pénurie, blablabla.
et sur les hydrocarbures, donc essentiellement pétrole et gaz. C'est le pétrole qui est aujourd'hui vraiment la matière première, qui, d'un point de vue marché financier, aujourd'hui, c'est là où il y a le plus d'arrivées d'acteurs quantitatifs, on va dire.
Ok, d'accord. Et ouais, j'allais dire, si tu veux pas, si tu veux être au même niveau que les bots, le meilleur moyen, c'est de trader des cryptos. Vu qu'il n'y a pas de fondamentaux, il n'y a rien. C'est absolument complètement random.
C'est le top marché pour ça.
Il y a vraiment aucune différence entre un humain ou un bot. Ça veut rien dire, absolument rien dire. C'est un putain d'enfer. Ouais.
Mais je remonte dessus justement. Malgré qu'il y ait des fonds, beaucoup de, enfin une arrivée de fonds courants sur les matières premières, pareillement, c'est toujours via des discussions que je cite un peu. En fait, le problème, c'est que les matières premières, t'as pas qu'un marché papier, t'as un marché physique. Et en fait, les fonds qui se basent zéro sur le fondamental, c'est souvent des fonds qui se font éclater, en fait. Qui, en fait, en termes d'espérance de vie, ne tiennent pas très longtemps. Parce que lorsqu'il y a des énormes distorsions de prix par rapport à des chocs d'offres, ou des chocs de demande ou des chocs géopolitiques, en fait, le fait que leur modèle ne prend pas ça en compte dans la base de données, et que tu as du coup t'as une vol qui peut augmenter, qui peut exploser à tout moment, en fait, c'est des fonds qui, des fois, accumulent des pertes immenses d'un coup, et ça engendre derrière, des fois, souvent, la fermeture du fonds. Donc, ça, c'est vraiment le... C'est... Parce que les modèles sur les matières premières, tu vois, c'est des modèles qui tiennent, en fait, limite un semestre, et qui font... Il faut régulièrement renouveler, en fait. C'est des modèles, voilà, ils ont trouvé un pattern sur les volumes, un pattern d'un point de vue technique, un pattern d'un point de vue sentiment de marché, etc. Et il va marcher un temps, le modèle, ils vont faire de la perf dessus, il va expirer, il faut trouver un autre modèle. Il va expirer, il faut trouver un autre... Ça, parce que les matières premières, en fait, c'est vraiment... C'est tellement l'interconnexion de tellement de facteurs, en fait, que si tu fais un modèle basé que sur de la métadonnée, entre guillemets, c'est, en fait, tu vas devoir être constamment dans le renouvellement de modèles. Mais à la fin, souvent, on remarque que les fonds purement compte sur les comos se font, en fait, une espérance de vie de l'ordre de 3 ans maximum, mais après, ils se font éclater à un moment donné, quoi.
Ok, d'accord. Donc, ça veut dire qu'en gros, dans les matières premières, il n'y a pas vraiment de... Même si ça peut arriver... il n'y a pas vraiment d'aberration par rapport à ce qui se passe dans le monde physique, sauf temporairement, genre.
Oui, c'est exactement ça. C'est vraiment ça. Il y a vraiment globalement une bonne corrélation entre ce qui se passe sur le marché physique et sur le marché papier. Donc, il y a une vraie réciprocité, à part des moments de pure spéculation où des fois, les prix vont dans un sens. Tu te dis, mais what the fuck? Parce que ça, c'est... Depuis 2010, en fait, c'est vraiment la financiarisation des matières premières où tu as vraiment eu l'arrivée, en fait, de pur player spéculateur, en fait. Avant, c'était vraiment les maisons de négoce. Donc, dans les grands noms, tu as les Trafigura, Glencore, Mercuria, Vitol, Cargill, Bunge, etc., qui sont les grandes maisons de négoce qui sont les intermédiaires, en fait, entre les producteurs et les consommateurs pour faire un résumé. Donc, avant, c'était vraiment ça, le monde des matières premières. C'était vraiment eux, un peu les traders, comme on dit. Plus derrière, tu as les banques effectivement, qui alignent, en fait, les lignes de crédit pour ces mêmes maisons de négoce, parce que quand elles achètent un baril, c'est pas un baril, c'est des millions de barils ou des millions de tonnes, donc elles ont besoin d'emprunter via les banques. Donc t'as effectivement l'activité des banques, mais vraiment l'aspect spéculation pure, il est arrivé vraiment dans les années 2010, et c'est justement à ce moment-là que t'as eu beaucoup de fonds, en fait, des grandes stars des matières premières, en fait, qui ont décidé à ce moment-là de fermer leurs fonds, parce que justement, le fait de voir beaucoup de spéculation d'un coup, de monde quantitatif d'un coup, en fait, tu vois beaucoup de... Tu faut juste un peu lire sur Internet de grandes stars du trading Como qui ont dit, en fait, on n'arrive plus à lire les marchés. Ils l'ont dit, on n'arrive plus à lire les marchés, c'est plus notre monde, et ils ferment leurs fonds. Et c'est là que tu as vu la naissance de players pure spec, en fait, qui ont, voilà, des fois, commencé, en fait, à faire plein de stratégies de trading via les options et futures. Et c'est là qu'on a commencé à voir des fois des vraies distorsions de prix qui, d'un point de vue fondamental, donc d'un point de vue physique, n'ont pas de sens, entre guillemets. Ils ont un sens pour les spéculateurs, parce que eux, ils ont leur propre base de données qui n'est pas forcément des données fondamentales, mais si tu prends vraiment le marché physique, donc comment se fait l'offre, la demande, et à quel niveau sont les stocks, et tu verras le prix sur le marché, tu te dis, il y a quelque chose qui va pas. Mais après, ça, c'est les règles du jeu de maintenant, quoi. Mais c'est pas quelque chose qui se fait constamment. C'est vrai, aujourd'hui, vraiment, je trouve, et personnellement, là où je rate beaucoup, du coup, tout ce qui est hydrocarbures, tu le vois vraiment de manière criante sur le pétrole. Tu es là, c'est vraiment d'un point de vue humain, si quelqu'un qui fait un fonds qu'on appelle que des stratégies discrétionnaires, Donc, sans modèle, etc., vraiment, c'est intradable. C'est littéralement intradable. Pour un fonds compte, pareil qu'un algo qui prend des positions à la seconde, bam, bam, ça se fait facilement. Mais sur le pétrole, pour moi, aujourd'hui, c'est la matière première en question où tu vois des... depuis 3-4 ans, même, et, enfin moi, de ce que je regarde, et après, ça s'est sûrement fait déjà dans les années 2015-2016, des prix, des fois, tu te dis, mais ça sort d'où, en fait, vraiment, ça sort d'où, tu vois. Mais là, tu vois que c'est des acteurs derrière qui bah, prennent des positions qui, où eux, ils ont notre façon de penser, un peu.
Est-ce que c'est déjà arrivé que des problèmes de... des aberrations de prix... tu as utilisé un autre mot, j'arrive plus à m'en souvenir. Mais en gros,
des distorsions. Distorsions,
exactement. Merci. Des distorsions de prix mettent sur la paille des... Enfin, causent des problèmes dans le monde physique. Genre, par exemple, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais un agriculteur qui peut plus exercer son métier à cause de ce qui se passe sur les marchés, ce genre de conneries.
Bah, tu as eu... effectivement, alors après, ça, des fois, ce n'est pas forcément que des causes de spéculateurs, mais lorsque le pétrole est devenu négatif en 2020... Et globalement, lorsque les matières premières ont fortement baissé en fait en 2020, tu as eu beaucoup en fait des sociétés productrices, donc que ce soit dans le monde du maïs, du blé aux États-Unis, du pétrole et du gaz pareillement aux États-Unis, mais également en Russie, en Arabie Saoudite en fait, c'était aux Émirats pardon, voilà, en fait qui ont dû fermer en fait. C'est pas des gros acteurs, hein, on parle pas de gros acteurs, mais des petits moyens acteurs qui les prix étaient tellement bas que l'activité n'était plus du tout rentable. Et souvent, les sociétés énergétiques sont souvent très endettées parce que bah, derrière, il faut financer l'achat et la revente de matières premières, l'achat des raffineries, etc., de différents assets. Là, bon, bah, t'as la fermeture totalement de boîte qui tombe. Après, t'as jamais eu... Enfin, après, peut-être que ça a été le cas, mais bon, j'étais sûrement pas né à ce moment-là. Mais t'as jamais eu non plus de géants dans les 20 dernières années qui sont tombés pour des distorsions de prix, même lorsque là il y a eu la guerre en Ukraine et t'as un pétrole par exemple, un exemple c'est que lorsque il y a eu la guerre en Ukraine et que le pétrole, le Brent est monté à $120 le baril, théoriquement à ce moment là lorsqu'il y a eu le lancement de la guerre le 24 février 2022, le pétrole a explosé, il n'y avait littéralement aucun changement sur le marché physique. C'était la présomption, ah oui, il va y avoir la guerre, peut-être des sanctions, est-ce que la Russie va réduire ses exportations, est-ce que ça va toucher ses raffineries, enfin, plein de présomptions finalement, mais à l'instant T, où pendant le petit laps de temps où le pétrole est monté à $120 le baril, il n'y avait littéralement rien. Il n'y avait aucune distorsion de prix, aucune distorsion de rupture de l'offre, dans les stocks, il n'y a pas eu d'infrastructures qui avaient été touchées ou endommagées, comme ça avait été le cas par exemple en 2019 quand des outils avaient attaqué des infrastructures saoudiennes. En 2022, il n'y a rien qui a fait ça. Et pourtant, le pétrole est... Et après, il est rapidement baissé, d'ailleurs. D'ailleurs, on a très vite vu que de juillet à décembre, il est baissé. Il a quasiment baissé jusqu'à $60 le baril. Donc, il a perdu... Il a été divisé par deux. Ce qui a montré... En fait, là, ça a été justement un rééquilibre avec le marché physique parce que ça montrait bien que, en fait, c'était que de la spec qui a fait exploser à ce moment-là le prix du baril, parce que tout le monde attendait, est-ce qu'il va y avoir une guerre ? On voyait les chars donner des images satellites venir au front, etc. Donc tout le monde, les specs, ils étaient déjà en train de prendre leur grosse pause, et dès que c'est lancé, bon bah, les calls, les options, ils ont tous explosé à la hausse, tu vois. Mais à ce moment-là, il ne s'était rien passé.
Ouais, et tu parlais justement de prix négatifs. Est-ce que tu fais référence à ce truc-là, je sais plus, je crois que c'était pendant le Covid ou avant, il y a eu un moment le cru de oil qui était passé en négatif et tout le monde était comme des fous à vouloir jouer ce truc-là. Alors je sais plus si c'était pour le short encore plus bas ou alors c'était encore pour le long, mais en gros il y a des gens qui disaient non, faites pas ça parce que si jamais ça clôture dans le négatif, vous allez devoir recevoir des barils de oui, pétrole chez vous.
C'est ça. Effectivement, en fait, le pétrole négatif, pourquoi c'est arrivé? Parce qu'effectivement, fermeture du monde entier. Et en fait, les producteurs, en fait, ils payaient les maisons de négoce pour qu'on achète, pour qu'ils achètent leurs barils. Parce que eux, du coup, les producteurs, les Total, les Shell et tout, bah, c'est eux les producteurs de pétrole. Mais du coup, ils devaient entretenir des millions de barils. Donc, c'est entretenir dans des grands hangars, dans leurs raffineries, etc., ou dans des entretiens de stockage des millions de barils, mais ça a un coût énorme. Ça a un coût énorme d'entretenir des millions de barils pendant un temps indéterminé. Et du coup, carrément dans la logique, je paye des gens pour acheter mon baril. C'est plus je le vends en prix, c'est que je paye. Les gars avaient totalement perdu la main du marché et ont payé. T'es dans l'inverse carrément du mécanisme de prix. Là, c'est comme, c'est comme le boulanger qui doit payer les vendeurs, enfin, les acheteurs pour qu'ils vendent sa baguette.
Ça serait bien ça. J'aimerais en trouver des boulangers qui sont dans cette situation-là, tu vois.
Du coup, les gars, ils vont demander le prix le plus intéressant pour eux. À la fin, t'as une offre qui est explosive. T'as des millions de barils là qui traînent dans des bateaux, dans des tankers, etc. Mais t'as une demande qui vaut zéro, vraiment, elle valait zéro. On consommait quasiment plus. Donc le pétrole, il est descendu dans le monde négatif sur le marché papier. Mais effectivement, là, c'est parce qu'il y avait un sens physique. Il y avait un véritable sens physique au fait que ça allait, que c'était dans le négatif. C'était une première en histoire. Hein. C'était jamais arrivé.
Ah ouais.
Là, c'était un truc genre. C'était vraiment, comme on dit, le signe noir, tu vois.
Ouais, parce que ça semble, surtout quand tu es habitué à trade des trucs qui sont complètement virtuels, tu t'imagines pas un truc pareil. Tu t'imagines déjà trader dans le négatif, ça fait aucun sens. Mais en plus, le fait d'avoir la perspective du truc physique qui arrive à ta porte.
Ah oui, non, mais c'était un nonsense. C'est pour ça que ça a duré 15 jours. Le lendemain, c'est repris dans le poste parce que là, c'était vraiment toute, on va dire, l'euphorie de fermeture de tous les côtés. Et en fait, les gens n'avaient... Il y a beaucoup d'acteurs, même la plupart, ne comprenaient pas, en fait. C'était jamais imaginable dans un scénario de se dire, le monde est fermé.
Ouais.
Donc, c'était carrément une nouvelle expérience pour les plus gros producteurs, les sociétés de négoce. On était là, mais en fait, comment ça marche, tu vois, carrément.
Ouais. Ouais, j'avoue. C'est vrai que ça donnait lieu à... C'était quand même une situation assez, assez particulière.
Ah oui, clairement, clairement.
D'ailleurs, j'en profite pour dire que s'il y en a dans l'audios qui ne sont pas cryptomanciens, parce que, on ne l'entend pas, vous pouvez demander le rôle de speaker et puis je vous le donne. Comme ça, vous pouvez poser des questions à Vincent... sur les commodités, sur le métier de trader de commodités ou sur d'autres choses qui sont en rapport avec ça. Je regarde les commentaires tranquillement. Alors, il y a Cryptomancien qui a une question. Alors, il demande combien de temps tu gardes ta position en moyenne.
Minimum un mois.
Ok. Donc, tu ne fais pas du tout d'intraday, tu fais pas de...
Franchement, force aux gens qui font ça sur les matières premières. Là, il faut... Putain.
Le concept de scalping, ça ne fonctionne pas.
C'est vraiment laissé aux propres fermes. Enfin, ça marche, en fait. J'imagine. Hein. Mais c'est des gens qui font de la pure spéculation, mais avec des infrastructures technologiques de très haut de gamme. Même les actions ne font pas ça. Hein. C'est vraiment, on parle de... Les sociétés comme, je ne sais pas si tu connais, mais Gen Street, Optiver, Hudson Rivers, etc. Donc, ce qu'on appelle des propres fermes qui, aujourd'hui, trade, mais des millions de contrats en millisecondes, en fait. En fait, eux, c'est plus des market makers sur le marché, donc ils apportent de la liquidité sur les marchés, mais derrière, ils font aussi des stratégies d'arbitrage ou de spec en plus du market making. Et là, c'est effectivement des boîtes qui tradent, vraiment une vitesse proche de la vitesse de la lumière, carrément. Hein. Enfin, je dis ça parce que c'est même des projets que ont ces boîtes-là, en fait. C'est vraiment de trader le plus rapidement possible, et certains ont émis l'idée de trader à la vitesse de la lumière. Donc, c'est pour ça que je dis ça, je ne dis pas ça en forme de métaphore. Et j'imagine, en tout cas, je ne suis pas à leur place, mais qu'effectivement, eux, ils savent traiter tous les mouvements à la milliseconde de près sur les marchés des matières premières. Mais ils prennent des effets de levier importants parce que c'est un marché qui, en fait, il y a tellement de données chaque jour qui bougent, en fait, sur les marchés des matières premières parce que tu as ce marché physique qui existe en parallèle que tu dois déjà accumuler toutes ces données à un instant T, l'analyser, quantifier l'impact en fonction des différents facteurs, puis prendre ta position. Donc tu vois, même du scalping, même là, en parlant de ça, je ne suis même pas sûr que c'est concrètement possible, vu la masse de données qu'il y a à faire. Intraday, c'est OK, c'est tellement, totalement faisable pour ceux qui ont l'infrastructure, mais même scalping, tu vois, tu me dis ça maintenant, je ne pense même pas que c'est possible.
Du coup, est-ce que tu dois, quand tu trades, que ce soit court terme ou long terme, d'ailleurs, en fait, je ne sais pas trop, est-ce que c'est un peu comme le Forex, c'est obligé d'utiliser du leverage quoi qu'il arrive?
Quoi qu'il arrive, en vrai, je pense pas que c'est... Non, pas forcément. Après, si tu veux, en fait, sur les matières premières, tu peux pas trader du spot. Le spot, c'est le marché physique, en fait. Donc, ça n'existe pas, le marché spot, sur les marchés financiers. C'est directement, si tu veux acheter du pétrole, du gaz, du cacao, ce que tu veux, c'est forcément via des futures ou des cacao. Donc, en fait, le fait que tu utilises des produits dérivés, du coup, l'effet de levier est directement incrémenté dans ta prise de position.
Ok.
Donc, en fait, ça fait partie du mécanisme de marché.
J'ai pas compris, t'as dit des futures ou du cacao
Non, genre des options, quelle que soit la matière première.
Ah, ok, d'accord.
Donc, en fait, comme tu utilises des produits dérivés, forcément, t'as l'effet de levier direct.
Ok, ok. Ouais, les options, j'y connais pas grand-chose. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est vraiment un hasard. J'ai jamais rien compris aux options. Alors que c'est... pour moi, j'avais l'impression que c'était la même chose que le margin trading, mais...
Il y a des choses différentes, ouais, là.
Ouais. Mais j'ai jamais trop compris. Et en fait, j'ai regardé une vidéo de Veritasium, il y a genre 2 jours. Et en fait, il expliquait l'histoire des options. Et du coup, j'ai compris. Je fais, ah, d'accord, c'est ça. C'est pas mal. C'est pas mal pour hedger, en fait.
Oui, après, ouais. C'est... Entre futures options, on pourrait pas faire une émission là-dessus, mais pourquoi pas, d'ailleurs, après. Mais c'est vraiment une question de flexibilité de la couverture, de niveau de coût aussi, de la vol du sous-jacent qui font que les acteurs vont plus choisir les futures que les options, mais sur les matières premières, c'est quasiment que des futures. Pour dire un peu la vérité dessus, même les spéculateurs, c'est massivement des futures qu'ils utilisent plus que des options.
Ok. J'avoue, ce serait pas mal de faire une émission là-dessus un jour. Genre, définir un peu c'est quoi les termes et puis ce que l'utilisation qu'on fait de ces différents outils, etc. Pas mal.
Oh bah pourquoi pas. Carrément.
J'ai pas d'autres questions vraiment sur les commodities. Je suis sûr que je peux en trouver si je fais un effort, mais so far so good. Moi personnellement, je suis quand même assez content. Je crois qu'il y a Cryptomancien qui veut dire un truc. Alors. Ouais. Hein. Ouais, on pourrait faire ça. Et ouais, ça pourrait être pas mal. Alors après, on pourrait même aller plus loin et même parler des indicateurs. Mais bon, qui dit indicateur dit analyse technique. Et analyse technique, je suis pas vraiment un amoureux de l'analyse technique. Je sais pas ce que t'en penses, Vincent.
Bah, tu connais mon avis, on a vu une grosse discussion dessus. Hein. Moi, ça se passe sur moi.
Non, je suis bien d'accord. Bon, bah, en tout cas, bah, on peut peut-être se programmer ça. On essaiera de réfléchir à une émission qui parle des outils de trading, ça peut être pas mal, mais qui sont pas de l'analyse technique, mais plus justement les façons. Je sais même pas c'est quoi le terme pour ça. Tu sais, les options, les futures, etc.
C'est plus, t'as vraiment la grosse différence entre analyse technique et analyse fondamentale, en fait. C'est vraiment ça, les deux camps. Et c'est vrai que les matières premières, d'ailleurs, j'avais un peu mal répondu à une question que j'étais moi aussi dans les transports, quand tu me dis s'il y avait des corrélations un peu comme sur les cryptos entre matières premières. C'est vrai qu'effectivement, tu peux avoir des. Je rebondis avec ce truc-là d'analyse technique, etc. C'est vrai que tu peux avoir des corrélations, effectivement, comme je l'avais dit un peu, entre départements d'énergie, mais. De par cette analyse fondamentale qui est vraiment prépondérante sur les matières premières, quand même, c'est très différencié entre chaque matière première. C'est-à-dire que tu peux vraiment avoir des mouvements, les mouvements sont quasiment uniques, à part franchement des mouvements plutôt macro qui vont faire effectivement tomber la classe d'actifs des matières premières qui est considérée comme un actif risqué, tu vois. Mais si on prend que d'un point de vue fondamental, vraiment le gaz à ses mouvements, le pétrole à ses mouvements, le cacao, le café, le sucre, le blé. Ils ont vraiment chacun leur mouvement parce que chacun est vraiment drivé par des facteurs propres à la matière première en question. Mais les moments où ça peut effectivement être corrélé, c'est plus dans des facteurs plus globaux, comme effectivement voilà, un Covid, une guerre en Ukraine, enfin, en tout cas des événements plus géopo, macro qu'autre chose, quoi.
Alors, il y a Wanda qui dit, derrière les. Alors, elle a posté ça il y a 14 minutes. Derrière les matières premières, il y a la matière humaine, avec des risques sur les famines, les conséquences géostratégiques qui en découlent. J'espère qu'ils se casseront les dents s'ils n'ont pas d'autres cibles pour spéculer. Ça leur appartient, je ne te donne pas cher de leur âme. Donc voilà, t'as Wanda qui veut te casser les dents. Je voulais juste dire.
Ah, c'est pas moi, c'est qu'ils se casseront les dents. Elle parle des spéculateurs, mais après. Ouais. Et là, effectivement, c'est vrai. Par exemple, on prend le cacao, parce que aujourd'hui, c'est vraiment la matière première agricole à regarder. Effectivement, aujourd'hui, le prix sur les contrats à New York, il est à 7 500 $ la tonne, ce qui est énorme. Pourtant, les deux plus grands producteurs de cacao dans le monde sont le Ghana et la Côte d'Ivoire, qui rassemblent à eux 70% de la production mondiale, avec le Nigeria en partie, une petite dizaine de pourcents. Et effectivement, aujourd'hui, de par les législations du pays, en fait, les agriculteurs, aujourd'hui, ne vendent pas en fait, à 7 500 $ la tonne. Aujourd'hui, ils vendent à près de 2 500 $ la tonne, ce qui est très bien, encore une fois. Mais en fait, c'est pas du tout ce qu'il y a sur les marchés papiers. Les marchés papiers, le prix... Bah, là, vraiment, ce qui s'est passé sur le cacao, c'est qu'effectivement, il y a eu des énormes chocs d'offres du fait des Niño, des grosses vagues de pluie qui sont arrivées dans ces pays-là, qui ont causé derrière, du coup, des problèmes au niveau du transport des fermes au port pour être exportées. Mais également, du coup, l'alliance de chaleur et de pluie a formé des maladies, en fait, sur les arbres, des maladies qui ont, en fait, bousillé entièrement les récoltes. Et en fait, aujourd'hui, on s'attend à une troisième année de déficit des stocks, une production mondiale qui va baisser de 15% d'année en année. Et après, il y a aussi le facteur de sous-investissement chronique dans les infrastructures du pays, etc. Et derrière, tu as une demande qui reste toujours très élevée en Asie, en Europe et aux États-Unis. Du coup, tu as vraiment des effets fondamentaux qui ont commencé à créer une vraie montée des prix. Et derrière, bah, en fait, tu as beaucoup de fonds qui se sont rajoutés parce que bah, là, c'est l'occasion du siècle pour se faire du fric. Du coup, tout le monde s'est rajouté et qu'aujourd'hui, il a fait 3 000, 4 000, 5 000, 6 000, 7
000.
Mais derrière, bah, effectivement, les agriculteurs, bah, ils profitent pas du tout de l'augmentation des prix, en fait.
Mais en fait, les marchés, ils ont anticipé les conséquences de tous les trucs qu'il y a eu, quoi.
En fait, ils ont vu que ça allait se passer, que c'était en train de se passer, que c'est... Le cacao, ça fait trois années que le cacao est déjà en déficit de stock et les déficits augmentent d'année en année. Donc ça avait commencé déjà fin 2021, ces problèmes de température, de pluie, s'ajoute au fait de maladies, le manque d'investissement derrière et les problèmes de transport. Enfin, t'as vraiment eu vraiment une accumulation de gros chocs au niveau de l'offre. Et en fait, dès que les spéculateurs ont commencé à sentir que ça allait exploser, bah effectivement, ils se sont jetés dessus. Et d'ailleurs, fin 2023, le nombre de positions spéculatives sur le cacao, on atteint le plus haut historique. Il y avait plus de 8,7 milliards de dollars de positions spéculatives sur le cacao. C'était vraiment un record historique depuis la naissance du cacao sur les marchés financiers. Et ça, bah, effectivement, c'est censé avantager directement les agriculteurs et désavantager les consommateurs, donc les sociétés qui achètent le cacao pour le transformer en chocolat et le vendre. Mais aujourd'hui, en fait, effectivement, les prix sont quasiment que drivés par de la spéculation.
Ouais.
Et effectivement, tu peux avoir des facteurs, effectivement, de... Il y a eu quoi ? Il y a effectivement eu le blé, par exemple, en 2022, le blé, l'orge, le soja, tout ça qui a explosé, effectivement, en 2022. Et t'as toujours des faits fondamentaux. Jamais les prix ont d'un coup fait grosse baisse, grosse hausse, sans rien. Non, c'est faux. Mais t'as une accentuation des prix à la hausse ou à la baisse, en fonction de comment vont les fondamentaux, qui va forcément jouer en défaveur soit du producteur, soit du consommateur.
Ok, ouais.
Donc, effectivement, ça, c'est... Bon, bah, c'est l'eau du marché, quoi.
Ouais. Ouais, et puis comme on disait tout à l'heure, il y a des, ça peut diverger un peu, ça peut être exagéré pendant une courte période, et puis après ça revient,
Oui.
et
Ah
mais
oui,
ça revient.
quand les prix en fait font
Voilà.
des explosions d'un coup, c'est quelque chose qui dure maximum 3 semaines, tu vois. C'est pas un truc. Très vite, les fondamentaux reviennent. Les
Voilà.
spéculateurs, c'est pas non plus des bouffons sans cervelle, tu vois. C'est qu'effectivement, ils chopent l'opportunité sur le coup. Voilà, boum. Voilà, il y a l'opportunité à bon, on la prend. Ils savent eux-mêmes que ça va pas durer. Ils savent que les fondamentaux vont venir, que les gens vont prendre conscience que c'était une excitation, un choc temporaire, exogène pour. Dû à ça, dû à ci, mais que bah, eux-mêmes après ils vont juste prendre leurs bénéfices en fait. Et du coup, boum, t'as les prix qui reviennent à leur normal. Mais pendant un laps de temps, effectivement, tu peux avoir des, comme je l'avais dit auparavant, des grosses distorsions sur un instant T.
Ok. Ça donne presque envie de s'y mettre un peu. Genre juste pour apprendre, tu vois. Genre pour explorer un nouveau monde, parce que c'est vraiment différent des cryptos.
Ah oui, là, ah oui.
Ouais. Mais les cryptos, c'est marrant, un peu. Genre, à un moment donné, je regardais la courbe de Floki, qui est un meme coin, donc c'est un chien sur la chaîne Ethereum, et je voyais le truc, il a fait genre il a fait x10 en quelques jours, genre je sais plus, en quand même en un mois, un truc de genre x10 en un mois, je crois. Et en gros, je voyais la courbe de ce truc-là, et je me suis dit, putain, ça short, ça se short, c'est sûr. Là, il faut y aller. Et en fait, donc j'ai short un petit peu. J'ai pas mis un gros montant parce que bon, voilà, j'ai pas trop, je suis pas riche, donc j'ai mis un petit truc et tout. Et au début, ça marche, tu vois. Genre, je gagne un peu de ça et je décide de pas couper. Et en fait, là, ça a commencé à partir en couille. C'est remonté, c'est redescendu, c'est remonté et tout. Et au bout d'un moment, j'ai fait comme, mais en fait, ce truc n'a absolument aucun sens parce que, genre, au bout d'un moment, je savais plus, j'avais plus aucune idée de si c'était censé monter ou descendre. Et j'avais aucun moyen, mais genre aucune indication qui pouvait me permettre de guider mon choix, ne serait-ce que un tout petit peu, tu vois. Il y avait pas de, je pouvais pas aller chercher les infos, il y a pas de news, il y a pas de truc, il y a pas de réalité de ce truc-là. C'est comme genre, c'est n'importe quoi. En tout cas.
Ah, c'est pour ça que c'est pas fait pour moi, les cryptos. C'est pour ça que j'y
Ah.
réfléchirai jamais.
Bon, bah en tout cas, c'était quand même super intéressant. Et je suis super chaud pour un thème d'une autre émission qui serait un petit peu là-dessus, avec un petit focus sur les outils qu'on utilise pour le trading, tout ça. Je
Bah
dis
ouais,
outils, mais il y a un mot pour ça. Ouais.
ok, bah carrément, carrément. Moi, je suis
Ok.
carrément chaud.
Bon, bah on se fait ça la semaine prochaine. Alors, bah en tout cas, bah merci beaucoup. On s'est fait un petit format ce soir, une petite heure. Mais normalement, c'est censé être le format de base de l'émission, c'est 1 heure, voilà. Mais en tout cas, là, c'est cool. Hein. C'était. J'ai cherché l'expression anglaise, sweet and. Je sais plus quoi, mais en tout cas. C'est week-end, donc reposez-vous bien. On se voit dimanche pour une nouvelle émission. Je sais plus exactement ce que j'ai prévu dans le planning. Attendez, je vais vous lire ça. Poum, poum, poum. Oh, ok. J'avais complètement oublié. Alors, ça va être émission controversée un peu. J'ai invité Lane pour dimanche. Donc, Lane, c'est quelqu'un un peu particulier. Mais il est intéressant. Mais là, je crois qu'il était dans la crypto à la base. Et puis maintenant, il fait que du. Il parle que de bien-être et il fait des posts un peu chelous sur la spiritualité, etc. Machin, mais beaucoup sur du bien-être. Et en fait, je me suis dit, bah, il faut qu'on se fasse une émission là-dessus. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'émission sur la bouffe, sur les produits, sur le sommeil, etc. Et donc voilà, on va se faire une émission santé mentale et physique. Et donc voilà, ça va être. Oh, ça va être cool, ça va pas être si controversé. Le mec est un petit peu controversé, genre, mais c'est pas non plus n'importe quoi. C'est quand même cool, ça va être intéressant. Et voilà, c'est ça. Et il y aura probablement donc deux chroniques si on continue comme la semaine dernière, donc la chronique de Gab et la chronique de Jacques de BTC Touchpoint. Donc on va voir comment on va agencer tous ces thèmes en même temps. Et puis voilà, après il y a la nouvelle semaine qui commence. Donc voilà, en tout cas merci encore Vincent, merci à ceux qui sont venus pour écouter. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour la prochaine émission sur ce thème-là. Et puis sinon à dimanche pour l'émission sur la santé mentale et physique.
À jeudi prochain.
Salut.
Salut.
Ah Vincent.
Oui.
Avant qu'on se quitte, est-ce que j'ai oublié de te demander la dernière fois. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas très très nombreux là, mais je vais quand même te demander. Je vais essayer d'avoir ce réflexe là de demander à chaque fois. Mais genre, c'est où les où est-ce que tu t'exprimes? Je sais que t'as une newsletter que tu publies régulièrement, à laquelle on peut accéder d'ailleurs si on va sur ton profil Twitter et tout. Mais est-ce que t'as d'autres trucs que tu fais que éventuellement dont t'aimerais parler rapidement avant que tu viennes?
Effectivement, la newsletter, c'est le gros truc que je fais, donc est gratuit d'ailleurs. Donc, c'est un article par jour du lundi au vendredi. Donc, c'est vraiment axé matière première et géopolitique. Donc, faut aimer ces thématiques-là. Sinon, il y a Twitter. Donc, Twitter, comme d'habitude, tous les jours, je poste pareillement sur ces mêmes thématiques. Il y a le Instagram de ma newsletter. Si vous allez sur mes derniers tweets, vous tombez dessus. Donc, pareillement, là, je vais publier là-dessus plutôt des résumés ou des news que je vais voir rapidement, que j'ai envie de partager. Que ce soit de la géopo, de la macro, de la géoéco, des matières premières également.
T'as dit Instagram?
Ouais, l'Instagram de ma newsletter. Moi, j'ai mon Instagram perso, où je fais rien dessus. Enfin, je partage des photos de voyage, quoi. Et sinon, il y a l'Instagram de ma newsletter, qui, en fait, là, si tu vas sur... Vous allez sur... Enfin, les gens, vous ou toi, vous allez sur mes tweets, là, mes derniers tweets, vous allez tomber dessus, quoi. Ou sinon, sur ma newsletter, vous pouvez accéder à l'Instagram directement.
Mais pourquoi t'es sur Instagram, tu publies des photos de puits de pétrole, des photos
en gros,
de...
mes articles, comme ils sont plus ou moins longs, sur Instagram, c'est vraiment des résumés que je fais. Donc, c'est des résumés vraiment en deux slides avec un petit texte. Et sinon, sur Instagram, il y a ça, les résumés, plus des fois, c'est des news qui sont vraiment dans l'ordre de l'instantané que j'ai envie de partager pareillement sur ces mêmes thématiques, mais qui ne vont pas faire l'objet d'un article.
Ok, ouais. Okay.
Donc voilà, c'est vraiment Twitter, newsletter, donc sur Substack et Instagram.
Ok, c'est cool. Bah écoute, super. Donc follower et puis c'est tout. Et puis, en tout cas, merci encore et puis on se dit rendez-vous à la prochaine.
Yes, à la prochaine.
Bon week-end, salut.
Ciao.